Ce matin, j'ai un cadeau pour celui ou celle qui va deviner ce qui se trouve dans ce paquet. Alors, les ados n'ont pas le droit de jouer parce qu'ils savent ce qui se trouve dans ces paquets. Je vous laisse deviner. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Si vous arrivez à trouver, les ados sont témoins, je vous donne les cadeaux. Ah, on ne voit pas. Voilà. Une voiture. C'est un peu osé quand même, hein, dans un carton. Quelqu'un d'autre? PlayStation. Quelque chose à manger. Du vide. Un livre. Et on va voir qui va gagner le cadeau. Et je vais ouvrir justement le cadeau. Alors, si Julien n'a pas fermé hermétiquement les cartons, je vais pouvoir essayer à ouvrir. Voilà. Comment tu as fait, Julien? J'arrive pas à l'ouvrir, là. Il faut déchirer, c'est ça? Déchire. Voilà. Attention, les amis. Il y a quelqu'un qui partira avec ses cadeaux aujourd'hui. On va essayer de déchirer. Et il y a un autre carton. Il me semble que c'est des chaussures Adidas, hein, vous voyez. Wow. Et un autre carton. Et au final, c'est vide. Merci Magali, tu pourras partir avec les cartons à la maison. Ces cadeaux vides illustrent le texte que nous allons lire ce matin. Jésus dénonce une foi de façade. Tout est propre, beau à l'extérieur, bien rangé, alors qu'à l'intérieur, c'est vide. Il dénonce une manière de vivre, c'est-à-dire devant les gens, on est des hommes et des femmes spirituellement bons, alors qu'à l'intérieur, nous sommes vides. Et je vais inviter Matt et Émilie qui vont nous faire la lecture. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32.
Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. » Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit « Oui, mon seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui.
Merci à Émilie et à Matt pour la lecture. Il y a une foi que Jésus approuve et il y a une foi qu'il n'approuve pas. La parabole que nous venons de lire est racontée par Jésus pour montrer, pour mettre en lumière un comportement qui nous guette tous. Vivre en apparence. Avoir un comportement bien soigné les dimanches, mais un comportement chaotique dans la semaine. Avoir une foi d'apparence, partir à l'église pour faire plaisir aux parents. En réalité, je n'ai pas envie d'y aller. On le fait parce que nous voulons montrer aux gens que nous nous comportons bien, que je suis un meilleur chrétien que l'autre. Alors Jésus propose la parabole pour faire comprendre aux chefs religieux que leur manière de vivre la religion mais qu'une façade. Il ne s'agit pas de dire oui et ne pas faire. Il s'agit de dire oui et faire. Et Jésus va mettre en lumière une foi qu'il n'approuve pas, une foi qu'il approuve, et il finit par un avertissement. D'abord, la foi que Jésus approuve. Cette histoire, il y a le premier et le deuxième fils. En lisant ces textes, j'aurais tenté faire un peu comme Jean-Marc nommait le premier fils Yvonne et le deuxième fils Jean-Louis, mais ça n'a pas marché parce que ces deux fils, il n'y a pas de femmes dans les textes. Jésus commence par dire que le premier fils dit non, ensuite il regrette son acte et il change d'avis. Le premier fils, c'est le type de personne que nous n'aimons pas rencontrer. Ils disent tout de suite non, je ne suis pas intéressé. Il ressemble à une personne qui prend son temps pour prendre une décision. Son objectif, ce n'est pas faire plaire aux autres, mais de réfléchir avant de prendre la décision. Il n'est pas là pour les apparences. C'est le type de personne qui peut vous décourager lorsque vous partagez la foi. Ils disent tout de suite, non, on n'est pas intéressé par votre religion. Mais ce que nous ne savons pas, ils partent avec quelque chose s'aimer dans leur cœur et peut-être qu'ils reviennent. Les personnes comme le premier fils, j'en ai rencontré plusieurs en Afrique du Nord. Lorsque tu leur parles de Jésus, il va te dire tout de suite, non, pas besoin. Après un temps de réflexion, il vient pour vous voir et dit, j'ai changé d'avis, je regrette mon péché. On ne sait pas combien cela prendra. 10 ans avant que la personne change d'avis, 30 ans, 20 ans. Mais au final, le premier fils change de décision. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait pour que le premier fils change de décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte est clair. Il regrette d'avoir agi ainsi. Il prend le temps de réfléchir à la question et il change d'avis. Et Matthieu nous le dit, pourquoi le premier fils a changé d'avis? Il n'échange pas parce que les autres lui ont mis la pression. Il change parce qu'il veut obéir à son père. Obéir à son père, c'est la motivation, la raison même de son changement. Il pouvait dire oui sans réfléchir. Il préfère dire non et réfléchir et prendre la décision. Dans Luc chapitre 14, Jésus nous dit, aucun de vous, s'il ne renonce à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il a laissé ses premiers fils? Il avait peut-être envie de faire autre chose parce qu'il a dit non. Mais il a décidé de dire non, je change d'avis. Il y a quand même des choses qu'il a laissées. Peut-être qu'il a laissé, il a renoncé à aller jouer à un match de foot. Peut-être qu'il a renoncé à une relation toxique qui l'a empêché de dire oui à son père et travailler dans la vigne. Peut-être qu'il a laissé une bonne bouteille de vin qu'il boit tout le temps et qu'il éloigne de son père. Et que là, il renonce, il met des côtés. Il dit, je vais y aller travailler pour mon fils, pour mon père. Peut-être qu'il a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il a renoncé à ces choses pour obéir à son père. Les amis, Dieu vous appelle ce matin. Et vous avez dit non. Parce que le choix est difficile entre ce qui nous attire et l'appel de Dieu. Vous comparez à l'instant ce que vous allez perdre en suivant Jésus-Christ et vous dites, je préfère garder mes propres plaisirs. C'est peut-être le moment de réfléchir et de regarder et de comparer ce que vous allez gagner lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Ça vaut le coup de réfléchir. Le premier fils a pris le temps de réfléchir. un non qui devient oui. Peut-être ce matin, Dieu vous ouvre cette porte de changer de décision après avoir réfléchi. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à changer cette vie d'apparence et à dire réellement à Dieu oui, alors qu'on avait déjà dit non. Les amis, la foi que Jésus approuve, c'est une foi qui regrette son attitude d'indépendance vis-à-vis de Dieu et qui reconnaît sa dépendance vis-à-vis de Dieu pour être pardonné. La foi que Jésus approuve, c'est une foi qui dit non au début, mais qui comprend son problème et regrette son attitude et change et dit oui à Dieu. En 2011, je suis arrivé en Tunisie en tant qu'étudiant. Avec plusieurs amis, nous avons commencé à chercher un logement et nous avons trouvé une maison, une très très belle maison dans un super quartier. Mais la maison était chère et nous avons demandé au bailleur de baisser un peu le prix parce qu'on était des étudiants. Le bailleur nous a dit « Oui, avec plaisir, je vais le faire. » Le premier mois, il n'a pas baissé le prix. Le deuxième mois, il n'a pas baissé le prix. Le troisième mois, il a fait pareil. Et avec des amis, on a décidé d'aller rencontrer les bailleurs pour exprimer un peu notre mécontentement. Il dit, mais messieurs, vous nous avez dit que vous allez baisser les prix. Il dit, oui, j'ai bien dit ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Il dit, oui, je ne l'ai pas fait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe alors? Il dit, dans notre religion, c'est autorisé d'avoir la pensée de faire le bien, même si je ne le fais pas. L'effet d'avoir pensé que je fais quelque chose de bien compte comme une bonne action devant Dieu. Alors ces messieurs nous font penser justement à ce deuxième fils. La foi que Jésus n'approuve pas. Le deuxième fils est très poli, mais de façade. Il dit oui tout de suite. Et il utilise la formule de politesse. Oui, mon Seigneur. Petite parenthèse, quand on était gamin, quand on avait des invités, on était tout poli devant les invités. N'est-ce pas les ados? Quand maman nous envoie et quand il y a du monde, je vais tout de suite pour que les gens constatent que je suis quelqu'un de bien. Mais quand les invités partent, c'est un peu compliqué, j'imagine. Quand les invités partent, quand on dit « Est-ce que tu peux faire la vaisselle ?»« Oui, j'ai fait. » Mais ce n'est pas fait. « Est-ce que tu peux arranger ta chambre à 6 heures du matin ?»« Oui, je le fais. » À 17 heures, la chambre n'est pas toujours rangée. Je ne vise personne. C'est un super gars. Il obéit directement à la demande du père. Mais en réalité, il ne fait pas ce que le père lui demande. Le deuxième fils, c'est des personnes qu'on aime travailler avec eux parce qu'ils sont spontanés, ils disent tout de suite oui, sans réfléchir. Mais au fond, ils ne font pas ce qu'on leur demande. C'est des personnes que tu croises et tu rencontres à l'église, ils sont bien réceptifs. Ils connaissent toutes les réponses sur Dieu. Il a toutes les formules chrétiennes de politesse. Oui, mon Seigneur, en réalité, il ne le fait pas. Si tu rencontres les deuxièmes fils, ils connaissent la Bible par cœur. Ne récitez pas un verset, ils connaissent la référence. Ils peuvent réciter le symbole des apôtres par cœur. Ils connaissent les nuances de notre Père dans les évangiles, dans Matthieu, dans Luc. Si tu lui poses la question « Comment ça va ?»« Je vais très bien par la grâce infinie des dieux. » Mais en réalité, c'est une foi des façades. C'est une personne qui n'a pas pris le temps de réfléchir pour prendre la décision. Et donc Jésus dénonce cette attitude. Cette foi est basée sur ce que je connais, sur ce que je sais faire. Mais ce qui est bizarre dans le texte, le jeune homme ne se rend même pas compte qu'il fait du mal à son père. Il ne voit pas la raison de se repentir, parce que pour lui, sa foi tient sur ce qu'il fait et sur ce qu'il est. Je ne suis pas en train de dire négliger la connaissance. Je ne suis pas en train de dire « je vais bien par la grâce de Dieu infini, c'est mauvais ». Mais je suis en train de dire « si la connaissance ne nous amène pas à l'obéissance à Christ, ça ne sert à rien ». Les amis, quel genre de disciples sommes-nous ? Jésus dénonce un christianisme de face, sans profondeur, sans obéissance. Jésus dénonce l'état de notre cœur. Et il y a des personnes comme ça. Tout de suite, quand vous le voyez, vous dites, celui-là, je ne lui fais pas confiance. Juste par l'apparence. Et je remercie les seigneurs que j'ai eu des personnes qui m'ont arrêté quand j'ai jugé les gens par les apparences. Je me souviens bien de ces jeunes hommes au groupe biblique universitaire en Tunisie. Quand il fallait les choisir comme responsables, j'étais parmi ceux qui ont dit non. Je ne pense pas. Mais heureusement, j'ai jugé par l'apparence et des amis ont vu autre chose que moi. Ces garçons, c'est un bon responsable en Tunisie. Les amis, Jésus nous interpelle ce matin. La foi chrétienne, ce n'est pas l'ensemble des principes qu'il faudra remplir. Ce n'est pas de cases à cocher en disant que je suis devant les gens, je dois bien me comporter. Je dois faire semblant comme le deuxième fils. La foi en Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de dire devant tout le monde, je jeûne 3 fois par jour. Je lis ma Bible 4 fois dans la semaine. D'ailleurs, c'est peu, il me semble. Alors qu'en réalité, c'est notre propre orgueil qu'on veut montrer aux autres. J'ai une petite question pour nous ce matin. Qui sommes-nous quand nous sommes seuls avec Dieu, sans les personnes qui nous entourent, sans les frères et sœurs qui nous entourent? Qui sommes-nous? Et qui sommes-nous en public, quand on a des projecteurs sur nous? Qui sommes-nous? Sommes-nous des personnes qui sont capables de regretter leurs péchés et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi » et d'être la même personne en privé et en public? Ou sommes-nous des personnes en public qui vivons les apparences, montrer qu'on est des meilleurs chrétiens, mais qu'en réalité, on est très loin de Dieu? Le premier fils nous montre l'exemple de quelqu'un qui est repentant. Il se rend compte de la situation. Il regrette en disant « Je fais du mal à mon père, je dois probablement changer. » La grâce de Dieu est pour les personnes qui se repentent, pas pour ceux qui font semblant d'obéir alors qu'ils ne le font pas. Où es-tu dans ta foi ce matin? Est-ce que tu continues à faire semblant devant les autres, mais en réalité ta vie est loin d'une vie qui se soumet à l'autorité de Dieu? N'est-ce pas Jésus l'a affirmé, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Et Jésus continue en posant la question au chef de prêtre et aux responsables du peuple. En fait, le chef de prêtre, les responsables du peuple sont la crème de la crème de la crème de la crème de la religion, des autorités religieuses. Ils connaissent bien toutes les réponses. Et il leur pose la question. Qui, selon vous, a fait la volonté du Père? Ils répondent, le premier. Alors là, Jésus lance un avertissement. À cette réponse, Jésus confirme que les collecteurs d'impôts et les prostituées vont précéder le chef religieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jésus dit aux personnes qui sont des responsables du temple, le chef religieux de l'époque, le personne qui maîtrise la loi. En d'autres termes, si on le compare aujourd'hui, c'est des théologiens renommés. Jésus est en train de dire, les prostituées vous dévanceront, vous presseront, vous précéderont dans le royaume de Dieu. Imaginez un saint instant rempli dans cette salle. Jésus apparaît et dit, les prostituées, les gens qui ne rentraient pas ici, les collecteurs d'impôts vont vous précéder. On est choqué, bouleversé par cette affirmation. Mais ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas que le prostitué, le collecteur d'impôts, rentrerait au ciel comme ça, de facto, sans rien faire. Mais non. C'est justement parce qu'ils ont compris qu'ils devaient changer de vie. Voilà pourquoi ils rentreront dans le royaume de Dieu. Le chef religieux connaît les règles liées au sabbat par cœur. Mais ils oublient qu'il ne s'agit pas de maîtriser les règles seulement. Il faut croire en Jésus-Christ et changer d'attitude. Et pendant ces temps, alors que Jésus est en train de parler, les disciples étaient juste à côté. Ils écoutaient. Ils n'étaient pas impliqués directement par la conversation avec le chef religieux. Mais ils écoutaient attentivement. Ils comprenaient en ce moment-là qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas juste d'avoir une foi d'apparence. De la même manière que nous écoutons ce matin, nous sommes concernés. Si nous croyons que la foi en Christ est une affaire de connaissance et d'apparence, nous nous trompons, les amis. Si le collecteur d'impôts et les prostituées dévancent les chefs religieux, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont cru au message de Jean-Baptiste. Les deux catégories de personnes citées sont des personnes exclues de la synagogue, des personnes de mauvaise vie. Comment les personnes de mauvaise vie dévancent, précèdent les personnes qui sont censées avoir une très bonne vie? N'est-ce pas étonnant? Ils sont tous les jours dans le temple. Ils se tiennent droit, sans vague, sans problème. Mais Jésus regarde les personnes qui sont de l'extérieur en disant, c'est plutôt le chef, c'est plutôt les prostituées, les collecteurs d'impôts qui vont vous précéder. Au verset 32, Jésus dit au chef religieux, Jean est venu, vous n'avez pas cru en lui. Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus parle de Jean en ce moment-là? Il aurait dû dire, je suis venu moi, vous n'avez pas cru en moi. Mais Jésus commence par citer Jean. Si Jésus cite Jean, c'est pour montrer l'endurcissement de cœur de chef religieux ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis l'époque de Jean-Baptiste. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, les chefs religieux ont écouté le message de l'Évangile, ils ont écouté la parole de Dieu, mais ils n'ont pas changé. Alors que les prostituées et les collecteurs d'impôts ont écouté, et ils ont changé. Les chefs religieux, ils ont eu des exemples qui pouvaient les pousser à changer, les textes bibliques les disent. Ils ont toujours pensé qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils n'ont rien à voir avec les autres. Ils sont mieux que les autres. Cette histoire se passe dans le temple au verset 23. Le temple, c'est l'endroit où on adore Dieu, où on vient pour prier. Et je me suis posé la question, comment ils n'ont pas compris que c'est lui qui était en face, était Dieu, qu'il méritait l'adoration? Comment ils n'ont pas saisi cette vérité? Comme quoi, les amis, nous pouvons aller chaque dimanche à l'église, mais sans reconnaître réellement qui doit être le sujet de notre adoration, Jésus-Christ. Jésus doit être au centre de notre adoration. Le temple où se trouvaient les chefs religieux était beau de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Les personnes qui allaient au temple, les responsables du temple, étaient beaux, bien habillés, mais c'était juste de l'apparence. Ils avaient des bons discours, mais c'était juste de l'apparence. En réalité, c'était des tombeaux blanchis. De la même manière que le cadeau est beau de l'extérieur, vide à l'intérieur, de la même manière que ces gens étaient à cette époque-là. Beau de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Et Jésus dit, attention aux apparences. Attention aux apparences. Si on faisait un IRM spirituel ce matin, les nôtres et vie à tous, qu'est-ce qu'on verrait? Moi, je n'ai pas envie que les gens puissent regarder mon IRM. Parce qu'ils ne verront pas, ils verront toujours pas ce qui est beau à voir. Mais qu'est-ce qu'on verrait? Un cœur qui se répand et qui dit non, mais qui vient après, qui regrette son péché, dit « Seigneur, pardonne-moi ». Ou un cœur qui fait semblant et qui en réalité, devant les autres qui fait semblant, mais qu'en réalité, c'est une foi de façade. Jésus nous invite à sortir d'une religiosité superficielle et à suivre réellement. Croire en Jésus, les amis, c'est faire sa volonté. Il ne s'agit pas de dire oui trop rapidement, sans réfléchir, sans tenir compte de l'engagement que nous avons pris. Mais il s'agit de réfléchir. Peut-être qu'on avait dit non avant, mais de réfléchir et dire oui. La foi en Christ, ce n'est non plus la foi d'un moment. Maintenant je suis, et après je ne sais plus que je serai. La foi en Christ, c'est mesure dans la durée. À qui ressemblons-nous ce matin? Au premier ou au deuxième fils? Mais ce texte n'est pas là pour nous culpabiliser non plus. Ce texte nous ouvre la porte vers une compréhension de ce que Jésus-Christ fait pour nous. Ce texte est là pour nous encourager, si nous avons tendance à aller de l'autre côté, à revenir vers Jésus-Christ et dire « Seigneur, je regrette et je vais te suivre. » À qui ressemblons-nous ce matin? Je nous invite à la prière. Seigneur, qui suis-je devant toi ou quand le personne me rend, ou en public? Qui suis-je? Seigneur, tu connais cette tendance qui veut toujours qu'on puisse vivre dans l'apparence pour que les autres puissent nous aimer, pour que les autres puissent dire des bonnes choses sur nous. Et c'est une foi qui nous maintient dans une forme d'hypocrisie, dans une forme d'apparence. Alors que ce matin, Seigneur, tu veux simplement nous libérer de l'apparence et vivre une vraie vie avec toi. Combien de fois, Seigneur, j'ai manqué cette cible de vivre pour toi, de ne pas vivre pour les apparences. Combien de fois, Seigneur, j'ai manqué cette vérité. Alors tu nous tends la main, Seigneur, ce matin. Tu me tends la main. Peu importe notre manière de vivre, tu nous ouvres encore la porte pour revenir vers toi et regretter ce qu'on a fait et continuer à marcher avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu as toujours les bras ouverts et tu nous accueilles toujours, toujours et toujours. Quel que soit ce qui se passe, tu es toujours là pour nous. Seigneur, je vais prier ce matin. Aide-nous à vivre selon ta volonté et à renoncer aux apparences. À renoncer, Seigneur, toute chose qui ne nous permet pas de grandir dans la foi et être centré sur toi. Seigneur, aide-nous à renoncer à tous nos faux semblants, mais simplement à venir vers toi. Que nos louanges, que nos prières, que nos attitudes soient centrées rien que sur toi ce matin et toute la semaine.